Salut, bonsoir, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1 à Québec, en espérant que vous ayez passé une belle journée. On va certainement passer un excellent 60 minutes ensemble, puisque ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime. Salut, Éric!
Salut, mon cher Yannick!
Content de te voir. Ça fait un bail qu'on s'est vu. Ça fait déjà quelques semaines. Je pense que quand je t'ai vu, tu t'en allais dans un voyage dans l'Ouest canadien.
Oui, exactement ça. J'allais faire une tournée dans l'Ouest canadien pour rencontrer des autonomistes, des gens qui, comme nous, pensent que les droits des provinces doivent être respectés dans le Canada. Ça a été une super tournée. J'ai eu même la chance de rencontrer la première ministre Danielle Smith. On a jasé longuement. J'ai rencontré des Autochtones, j'ai rencontré les francophones là-bas, la réalité franco-albertaine. J'ai évidemment fait des médias, j'ai fait des discours devant des gens d'affaires. J'ai rencontré des militants qui voulaient parler. C'est quand même, ça, c'est quelque chose de bizarre. Chef d'un parti conservateur du Québec qui n'a pas de député, puis je suis capable de remplir des salles à Calgary. J'ai été très impressionné.
Ouais. Tu t'expliques ça comment? Hein?
Ben, il y a un intérêt parce que je suis un conservateur. Ils associent pas le Québec au conservateur en partant. Là.
Ouais.
Puis j'ai travaillé quand même pendant 7-8 ans. J'ai été chroniqueur dans le Calgary Sun puis le Edmonton Sun.
Fait que t'avais quand même une base.
J'ai quand même une notoriété médiatique un peu, mais ça fait quand même pas mal d'années. Ça me surprend que le monde s'en souvient encore. Et puis je pense qu'il y a de l'intérêt pour la politique. C'est des gens, c'est la base militante conservatrice est très forte en Alberta, beaucoup plus qu'ici.
Ces gens-là nous voient comment? T'sais? Parce que là, bon, visiblement, tu as eu un bel accueil, mais ils nous voient comment, les Québécois? Ils nous voient-tu comme des gens qui font partie du Canada à part entière, qui veulent contribuer au succès du Canada dans un avenir proche, ou encore comme des parasites canadiens qui demandent toujours tout le temps plus, qui sont jamais rassasiés?
Il y en a, il y a les deux, là, mais il y a des gens, effectivement, qui voient le Québec comme du monde qui crache sur leur pétrole sale, mais qui acceptent l'argent de péréquation qui va avec, que eux autres, qui ont des ressources qu'ils exploitent pas, mais ils veulent avoir l'argent des nôtres, c'est sûr. Puis moi, j'allais là justement aussi pour ça. Je pense que c'est important de dire à ces gens-là, écoutez, là, l'écrasante majorité des Québécois, là, elles pensent comme vous. Elle pense qu'il faut exploiter nos ressources, elle veut travailler, elle veut créer des jobs, elle veut créer de la richesse au Québec, puis elle veut pas dépendre de l'argent qui vient de l'étranger. C'est nos gouvernements. Nous autres, on n'a jamais dit que vous aviez du pétrole sale. C'est notre premier ministre François Legault qui a dit ça. Fait que, tu sais, différencier la population de nos élites politiques, de nos dirigeants politiques, c'est très important. Là. Vous pouvez être fâché après François Legault, puis moi aussi je le suis, puis vous avez raison de l'être. Mais, tu sais, les Québécois sont à la même place que vous autres.
C'est lourd de sens quand même quand un chef d'État peut dire des choses comme ça, puis t'as l'impression qu'ailleurs, dans les autres provinces, quand toi tu y vas, que t'as peu, là, ces gens-là ont l'impression que...
C'est le Québec
moi,
qui parle.
Moi, je dis la même affaire que François Legault.
C'est le Québec qui parle, mais c'est un peu, tu sais, c'est quand t'as un chef d'État qui parle, puis qui dit des choses irresponsables, mais malheureusement, ça éclabousse toute la population qui est supposée représenter. Puis c'est ça qui est le problème, c'est que les gens associent les deux, mais c'est important justement qu'on y aille puis qu'on démystifie ça puis qu'on dise non, François Legault c'est une chose puis les Québécois c'est d'autres choses, heureusement.
Danielle Smith, tu l'as trouvé comment? T'as rencontré Danielle Smith dans quelles circonstances? Combien de temps t'as passé avec elle?
D'abord, il faut que tu saches que c'est une fille que je connais depuis... Là, je vais trahir mon âge, mais peut-être une trentaine d'années, plus que 30 ans.
Tu l'as connu très jeune.
Oui, très jeune. J'étais étudiant.
Elle te gardait.
Non, elle a le même âge que moi. J'étais étudiant, puis on était tous les deux stagiaires à l'Institut Fraser à Vancouver pendant un été. C'est comme ça que je l'ai connu.
C'est Simon Fraser, c'est ça?
L'Institut Fraser, juste l'Institut Fraser. Simon Fraser, c'est la rivière puis la vallée là, en Colombie-Britannique. Mais l'Institut, le think tank, là, s'appelle le Fraser Institute, l'Institut Fraser. Et je l'ai rencontré. Là, c'est une espèce comme l'Institut économique de Montréal, là, pour ceux qui connaissent ça. Là. Et je l'avais connue aussi quand j'ai travaillé à Ottawa. Elle a fait un peu de politique, mais après ça, elle était dans les médias. Puis moi, je faisais encore de la politique, fait que j'interagissais avec elle. Après ça, moi, je me suis ramassé dans les médias. J'ai même déjà fait des entrevues avec elle. Après ça, elle s'est ramassée chef du Wild Rose, qui était un autre parti. J'avais été même l'aidé pour préparer son débat des chefs à l'époque.
OK, c'était elle qui était là.
Oui, puis après ça, elle est retournée dans les médias. J'ai même fait des entrevues avec... elle était à la radio à Calgary un moment donné. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, puis même, on est allé, un moment donné, j'étais allé faire une conférence, c'est elle qui m'avait présenté. Nos chemins se sont croisés, là, je sais pas combien de fois. On a une carrière assez similaire. Tu sais, on était en politique dans les médias tous les deux pendant un bon bout de notre vie. On est très orienté vers les politiques publiques. On a travaillé dans des think tanks, là, un peu plus à droite. Fait que c'est un peu, tu sais, nos chemins se sont souvent croisés. Fait que quand je l'ai vue, c'était pas comme si je rencontrais pas juste la première ministre de l'Alberta. Je rencontrais Danielle Smith, la fille que j'ai toujours connue. Puis, je te dirais qu'elle était très heureuse de voir qu'au Québec, il y a enfin une voix conservatrice conservatrice. Pour elle, c'était quelque chose d'important. C'est une fille qui s'intéresse beaucoup au Québec, qui comprend... C'est une vraie autonomiste. Là. Danielle Smith est devenue, au cours des derniers mois, la dernière année, la championne de l'autonomie au Canada. C'est-à-dire que c'est la province qui revendique le plus pour ses pouvoirs à elle. Elle est allée en cours deux fois. Ils ont gagné contre le gouvernement fédéral. Elle a adopté une loi sur la souveraineté de l'Alberta dans un Canada uni pour justement que le gouvernement puisse pas empiéter. Donc, elle est vraiment... Puis là, on a convenu qu'au mois d'avril, on allait se rencontrer puis on va convoquer tous les autres chefs de partis conservateurs au Canada à une réunion à Ottawa pour jaser d'autonomie. Fait que là, je m'en vais là le mois prochain pour rencontrer Danielle Smith encore, mais aussi les autres chefs. Parce que j'avais rencontré aussi, pendant que j'étais dans l'Ouest le mois passé, j'ai rencontré aussi le chef du Parti conservateur de la Colombie-Britannique, qui est deuxième des sondages. C'est un parti qui est en émergence, comme nous autres. Il avait comme quasiment disparu, le Parti conservateur en Colombie-Britannique. Puis il est rendu à 23-24% des sondages. Il va avoir une élection cette année. Donc, c'est ça. Fait qu'on va essayer de se rencontrer le plus grand nombre de chefs conservateurs au Canada, puis de voir comment est-ce qu'on peut... qu'est-ce qu'on peut faire pour l'autonomie de nos provinces.
Ouais, je trouve ça intéressant. Puis pour ce qui est de Danielle Smith, est-ce que ça te surprend, son ascension au pouvoir?
Non. C'est une fille qui a toujours été très articulée, qui a été à... Comme je t'ai dit, en termes de politique publique, c'est un cerveau. Là, c'est une fille qui est très intéressée par ça. C'est une communicatrice. Elle a été dans les médias longtemps. Elle a été journaliste, columniste, éditorialiste. C'était comme... ça allait arriver un jour ou l'autre. Là. Moi, je pensais que c'était quand elle était pré-chef du Wild Rose. Là. Je pensais même qu'elle allait gagner, parce que les sondages la mettaient en avance à l'époque. Elle avait perdu contre les conservateurs. Mais depuis ce temps-là, les deux partis se sont fusionnés, puis elle est devenue chef là, du Parti unifié.
Puis elle semble pas nécessairement s'en faire avec les relations qu'elle peut entretenir avec Justin Trudeau. Je pense que c'est quelqu'un qui va parler d'abord avant tout pour sa province.
Pour l'Alberta, point.
Pour le reste des Canadiens, ce sera à Trudeau de gérer, mais elle veut travailler pour sa province, puis c'est très ressenti.
Bien, c'est ça qu'il faut faire aussi. Je dirais, elle est là pour défendre l'intérêt de l'Alberta, a été élue par les Albertains. Cela étant dit, elle a quand même une vision canadienne, dans le sens qu'elle comprend qu'on fait partie tous de la Confédération canadienne. Elle va sûrement s'impliquer, je pense, dans l'élection fédérale, mais on s'entend que c'est pas en Alberta que ça va se passer. Là. Je pense pas qu'il y a beaucoup de comtés qui vont échapper aux conservateurs là-bas, mais je sais qu'elle a... Elle appuie assez fortement le Pierre Poilievre.
T'as-tu rencontré Poilievre pendant ton voyage?
Il était pas dans l'Ouest, non.
Non.
J'y ai jasé, mais parce qu'il m'a appelé, c'est bizarre, parce que pendant que j'étais là-bas, il a vu que j'ai rencontré Danielle Smith, puis il avait lu ça dans les journaux, puis tout, puis j'avais fait des entrevues en anglais, puis j'imagine que ça a apparu dans sa revue de presse. Puis c'est ça, on s'est jasé pendant que j'étais à Calgary.
T'es-tu tanné de répondre à ces questions-là concernant Pierre Poilievre?
Est-ce que je vais me présenter? Bon, là, c'est ça ta question? Faut que je répète ma cassette?
M'emmener, faut que je fasse ma job, là. T'es-tu tanné de répondre à ça? T'sais, les rumeurs sont tellement intenses, puis t'sais, on ne sait pas honnêtement d'où sont parties les rumeurs. Là. Il doit certainement y avoir quelques sources qui ont émis des hypothèses, puis ça a fait en sorte qu'il y en a qui ont pris ça pour du cash. Puis là, ben, tu dois constamment dire « Non, non, moi, je reste au Québec. »
Oui, c'est ça. Je reste au Québec. Là. Ouais. Mais c'est sûr que je trouverai jamais la source de la rumeur. Puis en même temps, c'est normal que les gens pensent ça parce que c'est... Je suis un conservateur, je suis au Québec, j'ai des liens avec Poilievre depuis très longtemps aussi, depuis 24 années que je connais Pierre. Fait que c'est un peu normal que les gens se posent des questions. Mais c'est sûr que je suis membre du Parti conservateur, je vais voter pour Pierre Poilievre. Je ne dirai pas au monde comment voter, c'est pas à moi de dire aux gens comment voter. Je pense qu'ils sont assez grands pour le faire eux-mêmes. Puis c'est pas, tu sais, ça aurait pu arriver là, dans une autre circonstance. Si j'étais pas chef du Parti conservateur du Québec, je serais peut-être allé. Là. Mais là, je pense que c'est important que ce parti-là, on a parti quelque chose de pratiquement rien. On est rendu aujourd'hui avec 530 000 personnes. Ouais. On est rendu pour la première fois numéro un dans la région de Québec depuis que je suis là. Ça, c'est la première fois que ça arrive. Puis avec le budget qu'on a eu cette semaine, je pense pas qu'on va descendre. Là. S'il y a un parti qui est en train de se tirer dans le pied et démontrer qu'il n'est plus le parti de l'économie, c'est la CAQ.
Ouais. On va en parler d'ailleurs dans les prochaines secondes, mais juste avant pour ce qui est de Pierre Poilievre, est-ce que toi tu dis bon moi je vais voter Pierre Poilievre,
oui.
Est-ce que tu vas aider son élection? Est-ce que
si me le demande, mais ouais. Je pense pas que c'est mon rôle, tu sais, de dire aux gens comment voter. Là. Tu sais, moi, je pense pas que les gens apprécient ça, se faire dire par un politicien provincial comment voter au fédéral. Mais s'ils ont besoin d'aide, je vais les aider. J'ai dit aussi à mes candidats, à mes organisateurs, que s'ils voulaient prêter main forte, ils étaient bienvenus. Puis que moi, je souhaite qu'il y en ait le plus possible qu'ils le fassent. parce que ça va renforcer les deux parties. T'sais, faut pas, c'est pas une guerre de savoir, moi, il faut que je garde mes organisateurs, mes candidats. Là. Non, non. Si Pierre Poilievre gagne plusieurs circonscriptions au Québec, là, je suis pas cave. Je sais que ça va avoir un impact très positif sur nous autres.
Oui, puis la politique, ça va vite. Les choses changent très rapidement. Puis moi, je me souviens du Parti conservateur dans ses prémices avec Adrien Pouliot. Puis bon, on reprochait à Adrien Pouliot d'avoir le nom Parti conservateur du Québec. Puis Adrien Pouliot disait, mais c'est pas la même chose que le Parti conservateur du Canada et tout ça. Puis quelques années plus tard, nouveau chef qui arrive en place, un nouveau dynamisme, un dynamisme très différent, une nouvelle vision aussi des gens qui se greffent au parti. Puis là, ben, on n'a plus de joint à dire, non, Parti conservateur du Canada, on s'entend bien avec ces gens-là.
Ouais, moi, j'ai aucun scrupule à dire que je suis conservateur. Un conservateur, c'est un conservateur. Dans toutes les autres provinces, c'est comme ça. Puis ça a été comme ça longtemps au Québec. Là, on a eu 8 premiers ministres qui étaient conservateurs. Vous allez dire qu'il y a eu un petit intermède de 86 ans. Là, c'est un... mais quand même, il y a, historiquement, ça existait. Puis il y avait des bleus. Là, on se définissait comme les bleus. Et ça a été comme ça. Puis dans les autres provinces, la majorité des provinces au Canada, c'est encore comme ça. Fait que c'est, on est en train de... On n'invente rien. Là, on retourne à nos racines.
Est-ce que les gens au secondaire, au cégep, apprennent ce que c'est que la gauche et la droite?
Je sais pas.
Parce que ce que
pas sûr, moi.
Ce que je constate, là, c'est que le terme gauche-droite est souvent utilisé, puis c'est comme si, d'un côté, les bons gars et les bonnes filles étaient du côté de la gauche versus les mauvais gars et les mauvaises filles étaient du côté de la droite. Je me dis, mais t'as peu, là. Puis on l'a vu au cégep, là, il y a de ça quelques années, ça fait-tu 2-3 ans, tu sais, ils définissaient l'axe gauche-droite, puis c'était une catastrophe, là.
C'est ça, on lisait ça, puis on avait peur de la droite, mais moi, je me disais, tabarnouche, quelle sorte de gang de fous que c'est ça.
Mais ils enseignent ça à nos enfants, je trouve ça triste, moi.
Non, ça, c'est triste, mais je pense que les gens se définissent pas nécessairement gauche-droite non plus. T'sais, c'est sur des enjeux hein, qu'on se définit beaucoup. T'sais, comme moi, la dernière campagne électorale, on parlait pas beaucoup gauche-droite, c'était plus, tu sais, est-ce qu'on est pour plus de démocratie, plus de liberté, plus de droits civiques?
Ouais.
Ça a tourné beaucoup autour de ça. Là, regarde ce qui se passe au niveau des finances puis de l'économie. Je pense qu'il va y avoir beaucoup ce que tu veux, plus de gouvernement. Ou si tu veux moins de gouvernement, plus d'argent dans tes poches. C'est pas juste gauche-droite, là, parce que c'est un peu abstrait, gauche-droite. Mais quand tu arrives et tu dis, est-ce que tu veux que tes impôts baissent ou tu veux que payer plus cher et avoir plus de programmes, là, le monde comprend un peu plus puis c'est plus concret par rapport à leur vie. Là.
Mais ça devrait être enseigné un peu différemment à l'école. T'sais, parler de c'est quoi une droite économique, qu'est-ce que les gens de droite économique désirent. Il y en a qui se sont fait avoir avec la fameuse boussole électorale là, de Radio-Canada.
Ils se ramassaient à droite puis ils étaient surpris. Il disait que c'était, il était plus. Il y avait du monde qui m'ont écrit pour me dire hey, j'ai fait le test de la boussole, j'en reviens pas. Ils me disent que je suis un conservateur au Québec.
Ouais.
Ben oui. Et c'est pas de nos idées, là. C'est juste parce que tu le sais pas. T'sais. C'est niaiseux, là. T'sais, comme quand tu parles du privé, mettons, je vais te prendre le privé en santé parce que c'est un élément qui est très important parce que ça concerne tout le monde. Ouais. On a tous besoin, à un moment donné ou à un autre, d'avoir des soins de santé. Quand tu expliques aux gens pourquoi tu penses qu'additionner la contribution du privé, c'est important pour améliorer la qualité des soins pour tout le monde, puis tu le détailles, bien, il y a bien du monde, même des gauchistes qui disent « Oui, ça a bien du bon sens.
Mm-hmm. »
Puis, tu sais, les gens qui en profitent le plus, c'est souvent les travailleurs syndiqués parce qu'ils ont des assurances privées.
Ouais.
Puis, tu sais, c'est pas vrai qu'il faut que tu sortes nécessairement ta carte de crédit. Là, tous les travailleurs qui travaillent pour qui ont un emploi avec une assurance privée, ben ils vont être couverts, ils vont pouvoir aller au privé eux autres aussi. Puis il y a même des pays où tu peux, puis c'est l'exemple qu'on utilise, puis c'est notre programme aussi, où tu peux aller au privé si les délais d'attente sont trop longs ou si ça coûte moins cher à l'État de t'envoyer là. Donc tu peux aller au privé, puis c'est l'État qui paye à 100%, c'est juste ton assurance qui est publique. Tu sais, fait quand tu décortiques ça, les gens, toutes les a priori qu'ils ont, ça tombe, puis là ils se rendent compte, bien c'est pas vraiment gauche-droite, c'est plus, t'es-tu pour l'efficacité ou t'as mieux monopole? C'est passé grosso modo, c'est à peu près ça. Là.
Exact. Exact. Mais la boussole électorale en a, en a fait peur.
L'as-tu rempli, toi?
Moi, je l'ai rempli. Puis, tu sais, c'est pas des surprises. Là. Je me retrouve beaucoup plus du côté de la droite économique. Puis sinon, ben, je vais dire comme l'autre, je suis dans le gros bon sens.
Des fois,
je suis un petit peu à gauche, des fois, je suis un petit peu à droite parce que je pense qu'on peut avoir de bonnes idées d'un côté comme de l'autre, mais je m'entendrai jamais avec les extrêmes. Toujours de la misère avec les extrêmes. C'est des gens avec qui tu peux pas discuter, puis c'est des gens avec qui on peut pas avancer. non plus, à mes yeux, à moi. OK. Là, le budget est sorti hier. Hier, à 16h, là, Éric Girard est sorti avec son beau grand sourire. J'ai repris ta photo que tu as mise sur Twitter avec les gars qui se faisaient des thumbs up en se félicitant de présenter le budget. On parle d'un déficit de 11 milliards de dollars. Puis on le voit clairement que ces gars-là et ces filles-là qui sont pour ce gouvernement-là, c'est pas leur argent qu'ils dépensent, c'est l'argent des autres. Puis peut-être que Girard était content là, de finalement réussir à mettre son budget en place puis dire voici de quoi seront faites les prochains mois. Mais moi, en tant que contribuable, c'est une très, très mauvaise nouvelle. Là. Puis on ne sera pas capable de revenir à un budget équilibré d'ici 2030. C'est pas vrai, Éric.
Mais non. Puis écoute, je sais pas par où commencer parce qu'il y a tellement de problèmes avec ce budget-là.
Commence avec leur sourire d'en face.
Oui, bien c'est ça. Ça, c'est l'arrogance, le mépris.
Parce que pour le payeur de taxes, on est les citoyens les plus imposants en Amérique du Nord. Pour le payeur de taxes, voir ton politicien t'annoncer une mauvaise nouvelle avec un sourire, c'est cruel. Sérieusement, j'ai eu une pensée pour le maire de Louisville. Je me suis dit, j'ai le goût de me faire une piñata aux couleurs de la CAQ, d'arriver en face du centre Vidéotron à la place Jean Béliveau puis dire au monde, amenez vos battes de baseball, on frappe sur la piñata.
Ça n'a pas de sens, hein?
Hey, le sourire d'en face,
puis
ça m'a
thumbs
tué,
up, ça. Thumbs ouais. up. Il aurait dû avoir des phases d'enterrement, parce que oui, c'était ça hier auquel on a assisté. Là. On a pelleté sur le dos de nos enfants puis de nos petits-enfants du Québec là, 11 milliards de dollars. Ça veut dire quoi, ça? Juste pour vous donner une idée, là, si cette année, on avait voulu gaspiller autant, mais on avait décidé qu'on était responsable et qu'on allait payer pour notre gaspillage, il faudrait augmenter la TVQ de 4 %. Ça veut dire que tu paierais 20 % sur tout ce que tu achètes quand tu vas magasiner en taxes par-dessus le prix d'achat. OK, ça, c'est...
Fait que sur 1000 piastres, c'est 200 piastres de taxes.
C'est 400 piastres.
Mais non, c'est 40 %.
Ah non, excuse-moi, c'est 40 piastres le nouveau, le plus, 160 plus 40, voilà. C'est ça. Excuse-moi, oui, c'est ça. Mais c'est quand même 4 % de plus. Et ce que ça représente, ça veut dire que c'est pas... Les jeunes, il va falloir qu'ils payent plus les intérêts, là. Parce que là, les taux d'intérêt, ça, c'est l'autre affaire. Les taux d'intérêt commencent à monter, mais pour le gouvernement du Québec, ça commence à monter parce qu'eux, ils ont des bons, puis ça arrive à échéance. Ils ont des échéances, des fois, de plus loin dans le temps. Uh-huh. Puis ils en avaient beaucoup acheté quand les taux étaient bas. Puis là, quand il y a des renouvellements de taux, ça passe de 1 point à 5 points d'une shot. Là. Et donc là, il y a une explosion des coûts d'intérêt pour la dette. Ils ont tout mal calculé. L'année passée, ils nous prévoyaient qu'on aurait un déficit de 4 milliards. Finalement, le déficit de l'année passée était 6,3 milliards. On a appris ça hier. Là, ils nous disent que ça va être 11. Mais qu'est-ce qu'ils nous disent qu'à la fin de l'année, on ne va pas se rendre compte que c'était 13 ou 14?
Ça, c'est le Québécois moyen aussi qui a mal compris. Le budget, c'est pour ce qui s'en vient. C'est pas ce qui est passé.
Puis, ils se trompent. L'année passée, ils nous avaient dit que les taux d'intérêt allaient baisser. T'as-tu vu les taux d'intérêt baisser l'année passée, toi? Non. Ils nous avaient dit qu'il n'y aurait pas de récession. Ah bon? Ils nous avaient dit que, je viens de le dire, on ferait 4 milliards. Puis, pourquoi on est dans cette merde-là? C'est pas compliqué. Ils augmentent leurs dépenses de 4,6 % tandis que leurs revenus augmentent de 2,4. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, ça va péter. Il n'y a personne qui nous écoute là, qui peut augmenter ses dépenses deux fois plus vite que ses revenus. C'est écrit dans le ciel qu'à un moment donné, là, il y a un banquier qui va l'appeler puis il va y tirer à plat, puis sa maison puis son char, il va y perdre. Comment c'est que personne n'est capable de faire ça puis qu'eux autres, ils peuvent mettre ça sur la carte de crédit éternellement?
Puis c'est un gouvernement qui n'est pas capable de créer de la richesse?
Zéro.
Impossible.
Ils ont Fitzgibbon, le ministre de l'économie, qui se promène avec son chéquier, qui distribue des milliards. Il distribue 6 milliards de dollars par année. On a-tu les moyens de faire ça? On met ça sur la carte de crédit des enfants. Voyons donc, juste ça, il faudrait éliminer ça. Là. T'imagines comment ça serait important? Puis dans le budget aussi, l'affaire qu'ils ont dit hier qui est importante, ils ont dit que le déficit était maintenant structurel. Ça veut dire que c'est pas conjoncturel. C'est pas à cause de la COVID, là. La COVID a le dos large, là, mais là, on est passé du dos-là. Là.
Ouais. Il y avait un 4 milliards qui était structurel là, sur le 11.
Mais 4 milliards structurels plus le mauvaise prévision.
Exact.
Bon. Mais ça, si c'est structurel, ça veut dire que ça ne va pas se régler, même s'il y a une reprise économique. Là.
Non.
Ça n'a aucun rapport.
Ils vont prendre l'argent où?
Ben, c'est ça la question. Ils avaient promis de baisser la taille de l'État de 5 000 employés. Aujourd'hui, il y a 5300 fonctionnaires de plus dans la fonction publique, puis au total, public-parapublic, il y a 55600 employés de plus. Il avait promis de baisser de 5000. Mm-hmm. S'il avait juste rempli ça, déjà, on aurait une marge de manœuvre. Nous autres, ce qu'on dit, c'est à chaque fois qu'il y en a deux qui partent à la retraite, engagez-en un. parce que de toute façon, il y a beaucoup de boomers, il y a beaucoup de gens qui sont plus âgés dans la fonction publique. Il y a un renouvellement important qui s'opère présentement. C'est les années pour faire ça. Ça t'es pas obligé de congédier du monde. Si c'est trop dur là, de dire au monde, faites vos boîtes, on vide la place. Quand il y en a deux qui partent, tu lui fais un party puis tu en engages un pour les remplacer. C'est tout. Donc, c'est ça qu'on propose. C'est des mesures très, très concrètes. Puis, créer de la richesse, tu viens de le dire, créer de la richesse, ça veut dire exploiter nos ressources.
On dort sur du gaz.
Ce gouvernement-là avait promis de le faire. Là, ils vont, tu sais, je regardais aujourd'hui, je lisais, d'ailleurs, même Radio-Canada en parle.
C'était quoi, c'était-tu le plan Nord?
Ça, c'était les libéraux.
Ça, c'était Charest.
Lui, c'était la Norvège d'Amérique.
C'était le plan Saint-Laurent, c'était pas
oui, ça? Oui, le plan Saint-Laurent, c'est ça, oui. Ouais, c'était, okay. C'était son livre. Ça, c'était le livre que François Legault a publié avant d'être élu. Ça s'appelait le plan Saint-Laurent. Puis là-dedans, il y avait un chapitre complet sur l'exploitation du gaz naturel au Québec. Puis mot à mot, là, ce qu'il disait, c'est qu'il fallait faire du Québec la Norvège du Nord. On n'est-tu pas là? Il a passé un projet de loi pour interdire toute forme d'exploitation ou d'exploration du gaz. Donc, il a empêché le projet GNL de 14 milliards au Saguenay.
C'était le projet Saint-Laurent.
Projet Saint-Laurent, c'est ça.
C'était son essai. Puis je me souviens que tu lui avais posé une question par rapport à ça. Ouais, je pense que c'est toi qui m'avais dit ça. Tu avais posé une question par rapport à ça, puis il t'avait dit, ouais, mais Eric, c'est parce qu'on n'a pas assez de travailleurs pour mettre tout ça en place, pour exploiter tout ça.
17 janvier l'année passée que j'ai posé cette question-là. Il m'a dit, oh non, on n'a pas assez de travailleurs. Mais je suis Christy, pourquoi vous d'abord, vous... Je veux dire, il voulait à l'époque faire un tramway, il construit des maisons des aînés qui sont vides, ouais. Il voulait construire des espaces bleus, puis ça, il y en avait du monde, mais il n'y a pas de monde pour travailler dans des industries hyper payantes, puis on a les moyens d'envoyer des dizaines de milliers de travailleurs en Alberta, ces chantiers, j'ai rencontré des Québécois en maudit en Alberta, hein. Puis il y a beaucoup de Québécois qui partent et qui font du in-and-out, fly-in, fly-out. Puis il y en a d'abord aussi qui sont allés s'établir là pour de bon.
Puis ce que je trouve le plus triste, c'est ça, Eric. Ces gens-là sont partis travailler en Alberta pour l'industrie du pétrole. Puis ils se disent, bon, mais je vais aller faire quelques années pour faire de l'argent et tout ça. Puis après ça, je vais revenir au Québec. Ils regardent comment ça se passe ici. Puis ils refusent carrément de revenir.
Puis c'est ça qui est important puis qui est dangereux dans le budget d'hier. C'est que quel message on envoie à cette génération-là? Si vous êtes aujourd'hui un jeune Québécois qui va étudier, qui va faire partie de ceux et celles là, qui sont l'élite, entre guillemets, économique, là, l'avenir du Québec, là, ceux qui vont avoir des grosses jobs, qui vont payer des grosses taxes, qui vont faire survivre le système, est-ce que vous pensez que ces gens-là ont l'intention d'avoir des vies plus plates puis d'être obligés de travailler plus fort puis qu'il leur reste moins dans leur poche pour payer parce que leurs parents puis leurs grands-parents sont passés avant eux autres puis leur ont laissé la facture de la carte de crédit ou s'ils vont voter avec leurs pieds puis ils vont aller vivre justement en Alberta, en Floride ou n'importe où dans le monde, parce que c'est une génération qui est plus bilingue que jamais, qui est plus connectée sur l'international que nous autres, on ne l'a jamais été, puis qui a les moyens de partir. Et on va faire quoi avec eux autres, là? C'est parce qu'à chaque fois qu'il y en a un qui part, là, ça va être une catastrophe. Parce que c'est ces gens-là, là, tout tient sur des cure-dents, là. Et on est en train de fragiliser. Puis quand tu leur dis, on va vous donner un autre 11 milliards sur la facture, là, t'en décourages, là. Puis tu forces du monde à quitter le Québec.
Oui. On parlait du déficit de 11 milliards de dollars. Là, c'est ce qu'on nous a annoncé pour les prochains mois. Le prochain, est-ce qu'on va parler d'austérité? Puis si oui, il faudrait couper à quel endroit?
Bien, tantôt, je t'ai dit, garde, on va couper 6 milliards dans les subventions aux entreprises.
Ouais.
On va couper des employés de l'État. Il faut
que tu remplacerais un sur deux.
Un sur deux. Puis jusqu'à concurrence de 10 000, parce que là, la CAQ avait dit de baisser de 5 000, mais ils ont monté de 5 000. Fait qu'on va en mettre de côté 10 000. Après ça, on va exploiter notre gaz pour créer de la richesse. On va additionner la contribution du secteur privé en santé pour que ça colle les coûts de santé soient plus raisonnables.
Petite question technique, parce que là, la Coalition Avenir Québec a interdit justement l'exploitation de ce qu'on a dans nos sols. Est-ce que avec un gouvernement du Parti conservateur du Québec, est-ce qu'on pourrait enlever ça, cette interdiction-là?
Oui, c'est un projet de loi qu'ils ont adopté. Il faut battre le projet de loi, il faut le changer, modifier, puis permettre, encadrer. Parce que c'est sûr qu'on ne veut pas que ce soit le Far West, là, mais on va mettre des normes strictes. Mais on va permettre aux entreprises d'exploiter le gaz en territoire québécois.
Donc, on pourrait enlever ça totalement.
Puis, okay. Ça, Yannick, je ne sais pas si je t'ai déjà raconté tous les détails de cette histoire-là, mais ce dossier-là, c'est hallucinant, là. Présentement, le gouvernement du Québec est devant les tribunaux parce que les compagnies qui avaient des droits, parce que le gouvernement était allé de l'avant, là, les compagnies qui ont des droits d'exploitation puis d'exploration au Québec poursuivent le gouvernement. Là, le gouvernement a dit « OK, je vais vous donner 100 millions, je vais vous rembourser ce que vous avez mis. » Les autres disent « Non, non, non. » Tu vas nous donner des milliards. Parce que nous autres, là, tu nous enlèves un potentiel où on aurait pu faire des milliards. » Fait que là, ils ont évalué combien de milliards ils viennent de perdre parce que le gouvernement les empêche d'exploiter. Puis là, on est en train de payer des avocats, puis on est devant un tribunal, puis ça va durer des années. Puis on risque de se ramasser avec des milliards et des milliards qu'on va payer comme contribuables québécois parce qu'on a refusé de s'enrichir avec le gaz qui est sous nos pieds puis d'être dépendant à 100% du gaz qui vient d'ailleurs. C'est fou. Quand la logique, là, est complètement débile. Tout ça au nom de l'environnement. Alors que, un, le gaz naturel, c'est une énergie de transition. On pourrait même exporter notre gaz en Europe présentement pour remplacer des centrales au charbon, puis on ferait 60% de moins d'émissions de gaz à effet de serre. On pourrait consommer localement notre gaz naturel puis être autosuffisant en matière énergétique, ce qui veut dire qu'on n'aurait pas besoin de le transporter sur des milliers de kilomètres, donc ça a un impact positif sur l'environnement. Fait qu'au nom de l'environnement, on fait plus de pollution, on s'appauvrit, puis on est devant un tribunal, puis on risque d'enrichir les compagnies pétrolières avec l'argent des contribuables du pauvre travailleur québécois.
Tu sais, j'essaie de pas être négatif à l'égard du Québec, mais je regarde tout autour de moi, là, puis c'est sur le point d'être tout en cendres. Tu sais, je regarde nos hôpitaux, ça fonctionne pas nécessairement bien. Je regarde le système d'éducation, ça fonctionne pas nécessairement bien. Nos infrastructures routières, c'est une catastrophe. Tout le monde demande plus d'argent tout le temps. Puis, tu sais, pendant la pandémie, mes gars me posaient des questions à savoir, tu sais, papa, c'est tout ça la vie, tu sais, avec les masques et tout ça. Puis, j'étais un peu dans le film La Vita est belle là. Ben non, c'est juste, on a déjà vécu ça, c'est juste un petit mois passé,
ça va
bien aller, patati, patata. Puis je me dis, mais qu'est-ce qu'on va leur laisser? Parce que ceux qui étaient là avant nous, bon, ils ont bâti le Québec et tout ça j'en conviens, mais maintenant, ces gens-là en ont largement bénéficié, puis il ne reste plus rien pour les enfants et les petits-enfants.
C'est ça,
on va faire quoi pour tout rebâtir, pour s'assurer qu'on ne laisse pas des ruines derrière nous?
Je suis content que tu le soulignes, Yannick, parce qu'on parle souvent du déficit. Puis c'est important, le 11 milliards, il ne faut pas le négliger. Mais ça, c'est le déficit financier. Mais quand tu parles de nos hôpitaux, là, tu sais, quand tu vas à l'hôpital Saint-Sacrement, puis qu'il y a une chaudière, puis que ça coule dedans, ouais, puis tu as l'impression que ça n'a pas été rénové depuis les années 60, là, puis quand tu vas dans les écoles, puis c'est vétus comme c'est pas possible, puis quand tu te promènes ces routes, puis tu essaies d'éviter une poule, là, ça, c'est un déficit caché. Là. C'est-à-dire que c'est un sous-investissement dans nos infrastructures qui est la mission fondamentale de l'État qu'à un moment donné, on va être obligé de rembourser. Là. Parce qu'à un moment donné, on ne pourra pas se promener à dos down là, sur ces routes du Québec. Là. Fait qu'il va falloir qu'on investisse dans notre système routier, il va falloir qu'on investisse dans nos hôpitaux, il va falloir qu'on investisse dans nos écoles. Fait que c'est un déficit qu'on a repoussé. C'est une autre forme de déficit. Ça. Fait que le 11 milliards, il n'est pas total. Là, parce que j'arrive de Calgary, là. Je ne sais pas si tu le sais, là, mais une école à Calgary, une autoroute à Calgary, puis un hôpital à Calgary, ça ne se compare pas à un hôpital à Québec.
Oui, c'est drette.
C'est drette, c'est neuf. Puis si, je veux dire, c'est pas... Tu sais, il faut sortir du Québec pour réaliser comment nos infrastructures sont délabrées.
Est-ce qu'avec l'arrivée du privé, l'arrivée du privé en santé, exemple, peut peut-être améliorer les choses? Parce que je pense pas qu'on tolère un hôpital privé qui est tout croche comme non. On a présentement avec nos hôpitaux qui sont gouvernementaux.
Tu sais, c'est vrai pour les hôpitaux, mais c'est vrai pour tout. Là. Avoir de la concurrence, ça stimule. T'sais, si toi, tu avais le monopole, puis si Boulevard, tu es la seule station du gouvernement à Québec, ton show serait moins bon. Puis tu n'aurais peut-être pas d'annonceur, mais tu n'aurais pas besoin de te botter le derrière. Tu aurais été nommé là parce que tu aurais une plug politique.
Je mettrais du Metallica puis je n'inviterais pas Éric Duhem.
C'est ça. Puis tu serais, puis tu mangerais des beignes en attendant. Mais non, mais je veux dire, c'est normal. Ouais. C'est la nature humaine. Et on le voit dans l'éducation. Tu sais, l'éducation au Québec, il y a 22% des enfants du Québec qui vont dans des écoles privées. Là, vous allez me dire, c'est pas beaucoup, puis c'est juste des riches. Premièrement, c'est pas vrai nécessairement. Il y a beaucoup de classes moyennes qui. C'est justement pour ça qu'il y a autant de monde au Québec, parce que c'est abordable, parce que l'État en paye une partie. Et ça a permis, grâce aux écoles privées, qu'aujourd'hui, vous pouvez aller dans des écoles publiques où il y a des programmes internationaux, où il y a du sport-études, où il y a études musique.
Mon école Cardinal Roy, où j'étais au secondaire.
S'il n'y avait pas eu de privé, là, t'aurais jamais eu ça.
Jamais.
Parce que la raison pourquoi le public le fait, c'est parce que le privé est en train de leur voler leur clientèle, parce que les parents, c'est ça qu'ils voulaient. Puis, à un moment donné, il faut respecter le patient, il faut respecter le parent, il faut respecter le contribuable. Puis, c'est ça qui fait que le privé a comme apport. Puis, oui, il y a des gens qui vont s'enrichir, mais il y a toutes sortes de modèles. Un hôpital, ça peut être un OSBL, ça peut être de l'aide, du soin à domicile, des bénévoles, ça peut être... Tu sais, il y a toutes sortes de modèles partout, là. L'idée, c'est de permettre de libérer, qu'il n'y ait plus de monopole, qu'il n'y ait plus d'emprise. Si des médecins veulent s'associer puis ouvrir une clinique, on a toutes sortes de barrières au Québec. Oui, il y a des cliniques. Là. Il y en a quelques-uns. Moi, je vais dans une clinique parce que je n'ai pas de médecin de famille. Je n'ai pas le choix. Ce n'est pas parce que je veux, c'est parce que je n'ai pas le choix. Mais la clinique ne peut pas avoir de patients plus que 24 heures. Fait que tu n'as pas le droit d'avoir de lit. Okay, on a mis... Ça, nous autres, on dit, mais non, pourquoi qu'on mettrait pas, on permettrait pas aux patients de pouvoir coucher là plutôt? Puis là, ils sont en train de contourner toutes les règles. Puis essayent les cliniques, c'est normal. Ils veulent avoir le patient, puis ils veulent lui faire plaisir, puis ils veulent leur offrir du service. Fait que là, il y en a qui annexent des hôtels, puis là, ils chargent un peu plus cher, puis ils offrent des soins hospitaliers, puis là, ça se fait contester devant les tribunaux. Il y a toutes sortes d'affaires qui se font présentement tout croche parce que le gouvernement met toujours des bâtons dans les roues. Après ça, il y a des médecins qui pratiquent une partie au privé, une partie au public. Là, le gouvernement essaie de lui mettre des bâtons dans les roues en leur disant, tu sais, ça va prendre tant de mois avant que tu puisses passer d'un à l'autre puis de revenir à l'autre.
Se désaffilie.
Alors qu'un médecin, souvent, il est capable d'en faire plus. Puis la raison pourquoi il ne peut pas en faire plus, c'est qu'il n'y a pas de salle opératoire, parce qu'il n'y a pas d'infirmière disponible cette journée-là, parce qu'il n'y a pas de personnel qui a nettoyé l'institut. Il y a toutes sortes de raisons qui font que le médecin, parce qu'il a atteint son quota, puis le gouvernement n'a plus d'argent pour faire ce type d'intervention-là. Mm-hmm. Puis pendant ce temps-là, il reste chez eux puis il fait rien, alors qu'il pourrait aller au privé. Fait que ça, tout le monde gagnerait, là. On aurait plus d'offres, plus de soins, moins ouais. d'attentes.
Je lisais la chronique de Mario Dumont, je sais pas si c'est sa chronique d'hier ou de ce matin, là, mais il parlait des programmes que le gouvernement mettait en place. Exemple, pour les travailleurs de la construction.
Oui.
Sont pas capables de mesurer l'impact de leur programme. Quand ils donnent de l'argent, ils disent « on va faire de la formation, on va payer les gens qui veulent travailler sur la construction 25$ de l'heure », mais ils ne sont pas capables de savoir qu'est-ce qui va arriver après. Ça va être quoi le pourcentage? Parce qu'ils ont déjà commencé puis ils ne calculent pas ça. Ils font juste dépenser l'argent en disant « il manque des travailleurs en construction, on va les payer, ils vont s'en aller dans la construction », mais là, on s'aperçoit qu'il y en a qui vont prendre le cours en construction payé pour rénover leur chalet.
Ben ouais.
On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver après. Avec les employés, quand il y a eu la pandémie, on voulait des préposés aux bénéficiaires. On les a payés en passant un contrat avec eux en leur disant « il va falloir que tu travailles pour le réseau ». Bien, finalement, il y en a énormément qui ont dit « non, c'est
la majorité
là, c'est pas
a sacré
moi.
Le camp.
La majorité a sacré le camp. Ils donnent de l'argent sans connaître les impacts.
Il n'y a pas d'évaluation qui est faite de
jamais.
Rien. Puis, moi, j'ai pas la prétention que parce que nous autres, on va être au pouvoir, on va être meilleur que les autres. On ne sera pas meilleur que les autres. La seule différence, c'est qu'on le sait qu'on ne sera pas meilleur, puis on va s'arranger pour qu'il y ait de la concurrence, puis pour qu'il y ait du monde qui sont meilleurs que le gouvernement pour faire ça.
Tu sais, la mairesse Boucher, là, elle disait quelque chose souvent qui était proche de sa sacoche, puis tout le monde riait d'elle.
Ben oui.
Mais elle savait compter en sacrement.
Puis elle savait son crayon à mine. Là.
Elle savait c'était quoi le coût de la vie. Elle recevait les gens chez eux, Eric, viens-t'en chez nous, je vais jaser, puis elle calculait, puis tout ça. Puis c'était... T'sais, les gens trouvent ça compliqué, mais pour elle, c'était extrêmement simple. Puis quand elle dépliait de l'argent, c'était pas pour rien. C'est à ça que je m'attends, moi, des politiciens. Mais on se rend compte que le gouvernement déplie de l'argent pour plaire à un, pour plaire à l'autre. Syndicat qui veut négocier le salaire, ouais, OK, on va leur donner. Mais avant, on va piger dans des coffres parce que des fois où il n'y en a plus d'argent, on va se donner 30 000 d'augmentation par député. Tu sais, c'est tout le temps à donner de l'argent sans nécessairement calculer comment il nous reste.
Écoute, hier, là, j'ai vu la caricature de ce que tu définis là. Parce que quand tu es dans un huis clos du budget, là, tout le monde, faut que vous sachiez comment ça marche. Là. C'est au centre des congrès de Québec, là, juste à côté de l'Assemblée nationale, l'autre bord de la rue.
T'es séquestré.
T'es séquestré.
Comme dans
là.
Une relation sado-masochiste. T'avais-tu un safe word?
Non. J'avais même pas le droit d'avoir un safe word. Fait que tu rentres là le matin, puis tu sors à 4 heures. Quand le ministre se lève de son siège à l'Assemblée, là, tu as le droit de sortir. Puis ils te saisissent ton cellulaire, ils te saisissent tout ce qui est des appareils électroniques. Bon. Là, tu rentres là, tu as des lobbyistes de toutes les causes possibles, imaginables, que tu ne sais pas qui existent au Québec. Là. Ils sont tous là. Puis là, c'est une salle, là, écoute, c'est à perte de vue. Là. T'en as, là. C'est... Et là, chacun regarde les lignes de son budget pour trouver si eux autres vont avoir le nanane. Parce que là, tu as des bottins, ils te donnent ça, tu as des piles, ils te donnent deux piles d'à peu près 6 pouces de haut. Là. Mm-hmm. Puis là, c'est cherche voir si cette année, tu as gagné à la loterie des subventions. Fait que là, ils sont tous là, puis là, ils se mettent en ligne. Puis là, les journalistes sont de l'autre bord. Et là, les lobbyistes vont voir les journalistes parce pour brailler parce qu'ils n'ont pas eu assez ou parce qu'ils les ont oubliés ou parce qu'ils sont de bonne humeur. Fait que là, mais tu sais, le contribuable là-dedans, il est où? Il est pas là. Il était pas là hier soir. Là. Il était pas là hier de la journée, pas en tout, là, au centre des congrès.
Écoute, il y avait Nicolas Gagnon qui était là de la Fédération canadienne des contribuables.
Oui, mais c'est 1 sur 600, là.
Ouais.
Mais là, tu as la gang, là, les villes qui étaient là. Comment c'est que la ville, La seule affaire que la Ville de Québec et la Ville de Montréal ont à dire aujourd'hui, c'est qu'ils ont pas assez d'argent pour le transport en commun. Ils endettent les jeunes de 11 milliards, puis eux autres, tout ce qu'ils trouvent, « Ah ben là, mon tramway n'est pas là. Ah ben là, j'ai pas assez d'argent pour la STM à Montréal. » C'est ouais. quoi ça, cette affaire-là? Ils ont pas de décence. Je veux dire, ils pensent juste à le nombril. C'était très égoïste là, comme attitude. Puis même affaire avec les syndicats. Là. Les syndicats sont là. Puis écoute, premièrement, qu'est-ce qu'ils font là? Je veux dire, ils sont supposés de négocier des conditions de travail. Ils sont pas supposés de commencer à décider qu'est-ce qu'il va y avoir dans les budgets. Là. Je veux dire, juste la façon dont on fonctionne au Québec, là, il y a un problème. C'est qu'on a des lobbies qui sont dépendants de l'État, puis des politiciens qui dépendent de ces lobbies-là pour dire des bons mots sur eux pour essayer de les faire réélire à l'élection d'après. Puis c'est une espèce de cercle incestueux où malheureusement, le travailleur puis le contribuable, mais lui, il est complètement exclu de ce système-là.
Au Parti conservateur du Québec, bon, vous avez plein de belles qualités, là. J'ai jamais entendu parler d'un gars qui pourrait être en place pour s'occuper des finances. J'imagine que vous l'avez.
Bien, on a notre porte-parole aux finances, c'est Adrien Pouliot.
Bon, OK.
Adrien, c'est l'ancien chef, c'était mon prédécesseur. Exact. C'est lui qui a rédigé le programme, qui a fait les propositions pour le dernier congrès qu'on a eu lieu en novembre.
C'est lui qui est techniquement porte-parole. Serait votre ministre des Finances?
On peut dire ça comme ça.
OK.
Puis c'est Karim El Ayoubi qui s'occupe du volet santé. Tu sais, ouais. T'as deux gros, on s'entend, là, il y a deux grosses affaires dans le gouvernement du Québec. Là. C'est ouais. le système de santé qui cannibalise la moitié des dépenses. Puis de l'autre bord, t'as les finances. Je pense que c'est de loin les deux plus grosses missions de l'État québécois. Puis c'est pour ça que t'as besoin d'avoir du monde. C'est en matière de finances, puis de comptabilité, puis d'économie, Adrien s'y connaît pas mal plus que moi. Puis en matière de santé, Karim El Ayoubi s'y connaît pas mal plus que moi.
Ah, mais Adrien Pouliot, c'est une machine. Puis M. El Ayoubi, j'y ai parlé, je pense, une ou deux fois. Puis effectivement, tu sais, il connaît son métier. Mais tu sais, on voit la valeur de quelqu'un quand on sait comment il compense ses lacunes. T'sais. En santé, t'es pas médecin. Non. Tu te dis, je vais aller chercher un gars qui est un excellent communicateur, qui est un médecin. Puis de l'autre côté, t'as Adrien Pouliot, qui était l'ancien chef du Parti conservateur, qui est un homme businessman, qui a bien réussi.
C'est la famille Pouliot. À Québec, on les connaît. TQS. Il y avait TQS, c'était à lui. Il y avait Télé 4 aussi dans le temps à Québec. Je ne sais pas si tu étais trop jeune pour te rappeler de Télé 4.
Aussi. Je me rappelle de Télé 4. Voyons, il y a juste ma télé. Là. Écoute, Éric Duhaime, j'avais une télé noire et blanc.
Je t'avoue comme un flot.
Ah, ouais, tout le monde me dit ça. Mais j'avais une télé noire et... C'est peut-être en raison de mon linge. J'avais une télé noire et blanc.
Ou t'es blonde.
J'avais le droit. Mais blonde aussi. J'avais le 2, j'avais le 4, j'avais le 11, puis j'avais le U. T'en rappelles-tu?
Ah, ben oui, le U, ben oui.
C'était les Québec.
Puis attends, il y en avait un, l'anglais, c'était quoi? On avait CBC, mais ça, il y en avait un qui était un anglais.
Hey, c'est une bonne question. Peut-être que les auditeurs sauraient nous répondre, mais il y avait le 2, le 4, puis c'était le 4,
le
c'était
les 4. Le 2, c'était Radio-Canada. Le 4, c'était l'équivalent de TVA aujourd'hui.
Moi, c'était le contraire. Le 2, c'était TQS.
Ah, TQS. Le 4, c'était TVA.
Le 4, c'était les 4, puis le 11, c'était Radio-Canada.
C'est ça, c'était le 11 Radio-Canada.
C'est fou. Fait que c'est la famille Pouliot qui avait Télé 4 aussi.
Oui, okay. C'était la famille Pouliot qui avait Télé 4. Fait que c'est une famille, tu sais, c'est une famille d'entrepreneurs. Après ça, il y a eu Entourage. Je sais pas si tu te rappelles de ça, Entourage. C'était ceux qui faisaient les branchements, un peu comme Vidéotron.
Oui, Internet.
Qui a été acheté d'ailleurs par Vidéotron.
Oui.
Fait que puis il y avait des. C'est ça, c'est une compagnie de télécom qui était très, très importante au Québec.
Fait que lui, c'est votre gars de finance.
Oui.
Qu'est-ce qu'il te dit, Adrien Pouliot, quand il a lu le budget?
Mais il est découragé, là. Écoute, tu vas lire sur les réseaux, sur Facebook aujourd'hui, il a fait quelques analyses, là. Mais, je pense que tout le monde, même la CAQ, hier, j'ai parlé pas mal au ministre des Finances. C'est probablement la première fois que j'ai plus jasé avec Éric Girard de ma vie. Puis, imagine-toi donc, après, j'étais allé souper hier soir avec Karim El Ayoubi, on est allé au graffiti sur Cartier. Éric Girard était à la table à côté de nous autres.
J'ai peur qu'il pleurait, il n'y a pas de bonne humeur.
Non, il était avec sa famille, puis il était sur le party, mais le...
Hey, sérieux, là, dis-moi pas ça, là, t'sais, parce que je le savais, là, j'en ai parlé un peu sur l'heure du midi, qu'il avait amené toute sa famille, puis il était content.
Ah, tu le savais?
Ben oui, je le savais, j'ai ma mère, moi, j'ai des chums ma mère, puis je suis ma mère.
Savais-tu que j'étais dans le même restaurant?
Non, okay. Ça, je le savais pas, là, tu vois, je l'apprends, je vais pouvoir dire ça demain, personne d'autre qui le savait, mais de savoir qu'il avait amené sa famille, puis qu'il était tout souriant pour annoncer un déficit de 11 milliards de dollars, tu sais, il est pas dans la même réalité que nous, puis je parlais avec... Antonine Iaccarini,
oui.
que tu dois connaître
très
certainement,
bien.
que j'adore, qui est une bonne communicatrice, une bonne vulgarisatrice aussi. Puis elle disait que les gens aux finances sont comme dans une bulle à part. C'est qu'ils travaillent tellement fort que le budget, c'est comme l'arrivée d'un nouveau bébé. Mais il faut qu'ils prennent conscience que pour nous autres, c'est l'arrivée du bébé satanique. Là. Non, c'est le bébé qui nous dit « Vous êtes dans marde! »
Non, non, c'était pas des bonnes nouvelles. Puis je comprends qu'eux autres sont contents d'avoir fini leur travail. Mais en même temps, Éric Girard, il faut que les gens sachent, avant d'être député puis ministre de la CAQ, c'est un gars qui a été candidat conservateur pour Stephen Harper. Okay? C'est un conservateur historiquement. Mm-hmm. C'est un banquier là, à la base, là, mais il s'était présenté pour les conservateurs de Stephen Harper. Moi, j'avais beaucoup d'espoir dans ce gars-là. Parce que je me disais, c'est un banquier, il a l'air sérieux. Christy, ça aurait été le pire ministre des Finances de l'histoire du Québec. Ouais. C'est lui qui va avoir le plus endetté la prochaine génération. Il est arrivé, il y avait un surplus de 7 milliards. Oubliez pas ça, ça c'est l'autre affaire que les gens oublient. Là. Quand Carlos Letao, qui était son prédécesseur, qui était le ministre des Finances, quand ils sont partis, puis que c'est la CAQ qui est arrivée, il avait laissé 7 milliards de surplus.
C'est à table. En plus des montants qui étaient supposés être remboursés pour Hydro-Québec, parce qu'Hydro-Québec avait fait des mauvais calculs, puis ils nous devaient de l'argent.
Ouais,
François Legault
vrai.
Avait dit dans l'opposition, on va rembourser les Québécois une fois arrivés au
pouvoir.
Ils nous
avaient fait signer une pétition, mais j'ai signé ça, moi.
Ben oui, puis une fois rendu au pouvoir, il nous a dit, on vous donnera pas le montant complet, on va vous donner la moitié. Ouais, fait finalement. Que le parti est dilapidé.
Puis, écoutez, ils ont tout dilapidé, pire que ça. On a une loi au Québec depuis Lucien Bouchard, sur l'équilibre budgétaire.
Mm-hmm.
Ils sont obligés de répondre. Puis c'est maximum 5 ans qu'un gouvernement peut faire des déficits. Bien, croyez-les pas, ils ont fait des déficits depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir. Au mois de décembre, ils ont dit la COVID encore, c'est toujours la faute de la COVID. Là, à cause de la COVID, on va être obligé de modifier la loi parce qu'il y avait des affaires qu'on n'avait pas prévues. Puis là, dans la COVID, on s'est rendu compte que la loi sur l'équilibre budgétaire a besoin d'être revisitée parce qu'il a fallu qu'on augmente les déficits pendant la COVID. Puis il y avait des problèmes avec la loi. Fait qu'il faut... Puis là, mais on avait une urgence sanitaire, fait qu'on n'était pas obligé de la respecter, mais là, on va la modifier pour qu'on puisse la... Fait qu'OK, ils l'ont modifié au mois de décembre. Là, il arrive au budget hier. Ah, ben là, on présente un autre 5 ans de déficit parce que là, la loi, on repart à zéro parce qu'on l'a changé. Fait que c'est une nouvelle loi. Fait que c'est un nouveau 5 ans. Fait qu'on va être pendant 10 ans minimum en déficit. Ils ont fait... C'est une passe-passe là, qu'ils ont faite, là. Mm.
On ne réussira pas à s'en sortir avec ce gouvernement-là. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'ils réussiront probablement pas à rentrer au prochain mandat en 2026. As-tu l'impression qu'ils vont nous refaire le coup que toutes les partis politiques nous ont fait au Québec depuis des décennies, c'est-à-dire l'an prochain, l'austérité, puis à l'année juste avant les élections, ils vont arriver avec des cadeaux en disant « Voici gestion rigoureuse des
fonds. » On va-tu encore avoir des chèques à la prochaine élection?
Chèque, monsieur, madame, continuez d'écouter Radio-Canada, continuez d'écouter TVA. Voilà, on vous donne son.
J'espère que non, je pense pas que. En tout cas, ils n'ont pas d'argent, ils sont cassés comme des clous, il faut se le dire. Là. Ça, c'est la première chose. La deuxième affaire, c'est que, tu sais, les gens, le Parti québécois est en croissance parce que les caquistes, évidemment, sont en chute libre, particulièrement ici à Québec.
Ouais.
Puis il y a beaucoup de leurs votes, surtout les personnes un peu plus âgées, qui sont allées se parquer au Parti québécois. Mais je veux juste dire aux gens que si le Parti québécois avait été au pouvoir hier, là, le budget aurait été aussi pire, sinon pire. Puis les gens qui me disent que ça prend un référendum, c'est la souveraineté, là, moi, je suis bien d'accord. Là, OK, vous voulez faire l'indépendance, c'est une affaire démocratique. Si les Québécois veulent ça, c'est correct. Là. Mais on reçoit 13 milliards du reste du Canada. Là, on est 11 milliards dans le trou. Comment vous faites pour faire un budget d'un Québec souverain?
Ah, c'est impossible.
Fait que là, tu sais, à un moment donné, là, arrêtez, là.
C'est impossible. C'est sérieux. Tu m'amènes un gouvernement socialiste à l'extrême, là. Oublie ça.
Avec 13 milliards de plus de déficit que ce qu'on a déjà. Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, ça va-tu régler le problème si on met PSPP là à la place de François Legault? Pas sûr que ça va être mieux.
Ben non, c'est plus socialiste. Ils sont encore plus socialistes.
Puis ils vont être en alliance avec QS.
T'as rencontré Daniel Smith dans les derniers jours, là. Tu penses qu'il reste une place pour moi?
Tu veux t'en aller en Alberta?
Dans le cool PQ rentre. Non, moi, je sac mon camp.
OK, toi, t'es à ce point-là.
Ah oui, vraiment. Moi, je veux pas laisser ça à mes enfants. C'est clair que je veux pas laisser ça à mes enfants. Je veux une gestion rigoureuse de l'argent que je leur donne, puis que je veux être fier. Quand je me promène à Québec, là, tu sais, il y a des places où je suis fier et d'autres places où je suis moins fier. Ce que le gouvernement fédéral puis provincial a fait pour ce qui est de la promenade de Samuel de Champlain, je trouve ça merveilleux.
Ah oui, c'est beau,
je suis fier de dire à mes gars, regarde ce qu'on s'est payé, ça nous appartient, c'est beau. Les touristes viennent ici, ils trouvent ça beau.
C'est
mais
vrai.
Quand je regarde tout l'argent que je donne à la santé, puis je regarde l'état pitoyable dans lesquels les patients qui sont crissement patients sont à l'hôpital, ça me tue. Hey, on fait une très très courte pause, Eric, puis après ça, ben on va se rejaser un petit peu quelques minutes. Merci d'être là. Je rappelle que ce soir, j'ai le plaisir d'être avec le soir. Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec, est avec moi ce soir pour les dernières minutes encore. Merci d'être là, soit dit en passant.
C'est un plaisir.
Peut-être rendu disponible.
C'est quoi, c'est le fun, j'aime ça qu'on ait du temps.
Ouais.
Ça, c'est le luxe.
C'est le luxe de la radio de Québec, t'as connu
wow.
ça, toi?
Oui, mais toi, c'est encore pire parce que c'est rare qu'on ait autant de temps. D'habitude, nos autres, nos entrevues, c'était 10-15 minutes,
ben
20
ouais,
minutes max.
C'est ça. Mais des fois, les boss disent, il me semble que tu prends beaucoup de temps avec tes invités. Bien, ça s'appelle la vie. Puis, juste pour me vanter un peu, c'est le fun de se le dire. Depuis que Boulevard existe, c'est la première fois une émission a autant de parts de marché
wow.
De toute la grille. On est autour de 14, 15, 16. Fait que j'étais en train d'aller rechercher les parts de marché que j'avais à cette heure-ci dans une autre station où j'étais. Fait que merci beaucoup aux auditeurs de nous faire confiance. Mais on a de bons invités, puis tu fais partie de ces invités-là.
Félicitations.
Okay. Hey, j'avais plein de choses à te dire
bien
pour
vas-y.
Ce qui est des prochaines minutes. On a oublié, avec tout ça, avec l'éclipse du budget, on a oublié la petite rencontre avec Pascal Bérubé puis François Legault. Eux autres, ils doivent être contents que le budget arrive, les
hey
mauvaises
boy.
Nouvelles. Tout le monde va chialer. 11 milliards de dollars.
Ils vont oublier ce qu'on a fait.
Ouais. Moi, je l'oublierai pas.
Effectivement, pour ceux qui ne l'ont pas vu, là, allez voir ça. Là, c'est un podcast qu'il a fait Pascal Bérubé la semaine passée à une émission qui s'appelle Politiquement parlant. Il avoue, puis là, c'est pas moi qui le dis, là, c'est lui. Il dit que c'est un vendredi, il neigeait en pleine pandémie, au pire de la pandémie, que lui et le premier ministre sont chumé-chumé, parce que c'était son ancien adjoint hein, quand il était
ouais.
au Parti québécois, et quand François Legault était ministre péquiste. Et donc, il texte au premier ministre. Le premier ministre dit hey, « qu'est-ce que tu fais? Ben oui, on pourrait se voir. Viens-t'en à mon bureau. Je vais emmener du vin. » Là, il se rencontre dans le bureau de François Legault. Évidemment, il n'y avait pas personne parce que c'était pendant la COVID. Personne n'avait le droit de travailler.
Pleine pandémie, couvre-feu.
Là, ils jasent eux autres, puis ça cale la bouteille de vin. Là, il arrive le soir. Là, c'est l'heure de repartir parce qu'il dit là, il dit à 8 heures, il y a un couvre-feu. Faut que je m'en aille. T'as imposé un couvre-feu. Et le premier ministre, il a dit, puis là, on ne sait pas si c'est en joke ou si c'est sérieux, mais un ou l'autre, ça ne change rien, c'est pas plus acceptable. C'est pas grave, je vais te signer un papier, il n'y a pas de problème, tu peux continuer à prendre un autre verre. Là, mais oui, mais tu ris, mais c'est pas drôle.
Mais non, c'est pas drôle. Hey, moi, je me rappelle de tout ça. Il y a des gens autour de moi qui ont souffert, des gens autour de moi qui ont perdu leur emploi. Il y a des businessmen, puis des filles aussi qui sont en affaires, qui ont perdu leur entreprise en raison de la
mais
pandémie.
Oui. Des enfants qui ne faisaient pas de sport. Qui étaient en détresse psychologique, qui n'avaient pas de socialisation, qui ont eu des échecs scolaires. Je veux dire, des problèmes, il y en a eu comme ça. Ces deux-là, tu vois, ça buvait le vin, puis ils étaient prêts à
ouais.
signer un papier pour qu'il n'y ait pas besoin de faire de couvre-feu. Il y a 22 000 Québécois qui ont eu des contraventions de 1500 parce
ouais.
qu'ils n'avaient pas respecté le couvre-feu. 50 000 parce qu'ils ne respectaient pas les mesures sanitaires. Ces 22 000 personnes-là, là, il faut qu'ils soient remboursés, là. Parce que ça représente 33 millions qu'ils ont donné pour faire exactement ce que le premier ministre était prêt à signer à son chum, prendre un verre de vin. Lui, il n'y avait pas de problème. Il pouvait le soustraire de la loi.
Ouais. Tu sais, j'aime bien Pascal Bérubé, mais je ne lui pardonnerai jamais la candeur avec laquelle il raconte cette histoire-là en ayant l'impression que ça n'allait pas y revenir d'en face. T'sais. C'est clair et net. Écoute, le Québec souffrait au grand complet et toi, tu racontes « Ah, ben, le premier ministre m'a appelé, il voulait prendre un petit verre de vin. Il voulait prendre un petit verre de vin, il y avait juste les bodyguards dans place. On a jasé de politique, je vous dirais pas de quoi qu'on a jasé, mais là, à un moment donné, je regarde l'heure. « Hey, faut que je prenne un taxi, François, tu m'as mis un couvre-feu. Pas grave, veux-tu que je te signe un papier? » Hey, sacrifice! Non, moi ça passera pas. Mais ça passera jamais.
Mais
jamais.
Ça a passé, là, puis je me suis fait attaquer. Là, ils ont dit que parce que moi, j'ai dénoncé ça.
Mais oui.
Là, ils m'attaquent, puis ils me disent « Ah, ben là, c'est du salissage. » Christy, c'est pas du salissage. Là, on n'a rien fait d'illégal. On a respecté le 2 mètres. On avait des masques. Mais oui, des masques, boire du vin avec des masques, c'est super le fun.
T'as rendu la victime.
Puis là, c'était des victimes. Il avait été attaqué. Puis l'autre affaire, j'ai vérifié les dates. Montréal est en zone rouge.
Rouge.
Lui,
ouais.
il est député de Matane, puis travaille à Québec. Qu'est-ce qu'il faisait à Montréal, dans le centre-ville?
Il était avec sa blonde.
Oui,
mais
théoriquement, t'as pas le droit.
Non, parce que sur Twitter, il a dit qu'il s'était éloigné de sa blonde en raison des zones. Souviens-toi, là. Moi, j'ai vu ce tweet-là, là. Puis il avait pris ses distances avec
mais
sa blonde.
Mais comment ça qu'il était à Montréal, d'abord?
Ah, ben ça, entre ce que quelqu'un dit et ce que quelqu'un fait, des fois, il y a une différence. Hey, il nous reste une minute. Je sais que tu as plein de choses à faire pour les prochaines heures. Tu vas te coucher à minuit à soir, j'imagine. Ça va être quoi tes prochains jours, Éric, suite au budget?
Bien, c'est sûr que là, avec ce qui se passe, là, il va falloir qu'on parle beaucoup d'économie. Et on n'a pas le choix. Là. Il faut falloir qu'on soit obsédé par la crise économique parce que c'est une crise des finances publiques qu'on a au Québec. Là.
Mm-hmm.
On a un gros, gros problème. Puis on a trois partis d'opposition qui sont aussi pires, sinon pires que la CAQ. Fait qu'on n'a pas le choix. Moi, mon objectif, là, c'est que dans les prochains mois, on devienne parti de l'économie, que les Québécois aient une alternative. Ceux là, qui sont écœurés de payer puis qui ont l'impression qu'ils n'en ont pas pour leur argent, bien, il faut falloir qu'on leur offre quelque chose politiquement qui leur convienne. Puis, tu sais, autant qu'on a tapé sur plein de sujets dans les dernières années, là, je pense que là, il va falloir que je devienne de plus en plus obsédé par l'économie.
Je te souhaite de passer une belle soirée. Merci beaucoup pour cette heure en ta compagnie. Ça a été un plaisir. Les auditeurs ont apprécié. Parti conservateur du Québec, on vous trouve sur Facebook.
Conservateur.Québec, Facebook, Twitter, n'importe quel réseau social, je suis là. Puis c'est ça, c'est important de, peu importe le parti pour lequel vous votez ou vous appréciez, c'est important de s'intéresser à ça parce que regardez ce qui est en train de se passer là. Ouais. Il faut s'intéresser parce que quand on ne s'intéresse pas puis qu'on regarde ailleurs, on s'en fait passer des petites vites.
Éric Duhem, merci. Je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée puis on se reparle demain 11h pour ce qui est de Marceau le midi. Merci. Bye-bye. Marceau le soir. Le soir.